une véritable révolution fiscale. Une réforme en profondeur de la fiscalité belge. Depuis des années, cet ouvrage est sur le métier. Les mots tax shift, big bang fiscal reviennent à la une de l'actualité, mais souvent, la montagne accouche d'une souris. Même s'il serait injuste de dire que rien n'a évolué au fil des ans, on ne peut pas parler de vrai changement de paradigme, et souvent, les modifications ont en plus rajouté une couche de complexité. Alors, si on partait d'une page blanche, ça pourrait donner quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu explorer dans ce nouvel épisode du Tournant. Il est 7h20 à la RTBF, boulevard Reyers, à Bruxelles. Curieux endroit, curieux décor pour une révolution fiscale. Dans les couloirs, pas encore grand monde à cette heure-là, à part à l'étage de la radio où cela fourmille d'activité depuis plusieurs heures déjà. Mais en ce petit matin, j'ai donné rendez-vous à trois experts de l'économie, des finances et de la fiscalité pour une expérience à la fois informelle et ambitieuse, redessiner le temps d'un petit déjeuner, la fiscalité belge en partant d'une page blanche.
Et la fiscalité devrait en avoir un.
Pour l'occasion, j'ai invité une vraie spécialiste de la fiscalité qui jongle au quotidien avec le droit fiscal. Elle s'appelle Sabrina Skarna, elle est avocate fiscaliste associée au cabinet Tetralo à Bruxelles. Elle enseigne notamment à la Solvay Brussels School et elle se décrit comme libérale.
J'ai réservé une petite salle au 10e étage où vous serez bien tranquille. Je vous explique tout quand on est là.
J'ai aussi donné rendez-vous à Étienne de Calataille, économiste de formation. Il a, lui, longtemps travaillé pour la banque de Grove avant de lancer sa propre société de gestion de fortune qui s'appelle Orcadia. Il enseigne l'économie à l'UNAMUR et à l'UC Louvain. Et il a aussi été, dans une vie précédente, chef de cabinet adjoint de Jean-Luc Dehaene, quand celui-ci était Premier ministre pour les sociaux chrétiens flamands. C'était à la fin des années 90. Donc, les réalités d'une négociation politique, le financement de l'État, Étienne de Calataille, il connaît. Et puis troisième invité à ce petit déjeuner révolutionnaire, Philippe de Feit.
Il n'y a plus d'adhésion à un système fiscal.
Il est économiste lui aussi. Il dirige aujourd'hui l'Institut pour un développement durable. Et avant cela, il a été secrétaire fédéral du parti écolo. Puis il a présidé le CPS de Namur, le Centre public d'action sociale. Autant dire qu'il a une attention très soutenue pour les personnes en situation plus précaire, qui, pour beaucoup d'ailleurs, le sont d'autant plus en cette période de crise.
Bonjour, ça va, Ali ?
Vous avez fait le veto, là, du coup.
Voilà, il est 7h38, nos trois invités sont arrivés, ils sont là, installés autour d'une table, dans une petite salle au 10e étage de la RTBF, dans un département qu'on appelle la RTBF Academy, puisque c'est notre pôle formation. Mais ici, c'est plutôt de la Tax Academy dont il s'agit. En ce mardi matin, une expérience de radio-réalité et de journalisme constructif dont voici le menu. Donc voilà, mais comme on a quand même un temps un petit peu compté, je vais déjà lancer un peu les travaux. Puis alors, ce que je vais faire, c'est que je viendrai chercher dans un tout premier temps chacun d'entre vous juste pour 4-5 minutes d'interview individuelle, mais ce qui ne vous empêche pas d'avancer. Bienvenue à la RTBF pour ce petit déjeuner. Bon voilà, c'est pas le grand luxe, mais enfin vous avez quand même de quoi vous sustenter. Donc l'idée que je vous propose, c'est de débattre entre vous. D'abord sur base, et c'est pour ça que je vais vous interroger d'abord individuellement, de ce que vous estimez être les grands mots, les problèmes, les enjeux à résoudre pour la fiscalité belge. Et puis de se dire que chacun, avec vos vécus, vos points de vue qui sont a priori pas les mêmes, vous puissiez échanger. Vous dire, tiens, si on se retrouvait, nous, à une même table de discussion, par rapport justement à nos différents regards, comment est-ce qu'on se mettrait d'accord sur, allez, disons, 4 ou 5 propositions phares, un peu, pour revoir la fiscalité belge. Et l'idée, c'est quand même de faire quelque chose que le gouvernement ne peut pas tout à fait faire, c'est-à-dire ici, repartir d'une feuille blanche en se disant, un peu dégagé de toute contrainte, si on devait aujourd'hui redessiner la fiscalité belge, comment est-ce qu'on le ferait ? Et alors, je donne une petite précision en plus, c'est que C'est évident qu'il y a plein de choses qui peuvent se jouer au niveau européen aussi, et donc n'hésitez pas à le mentionner. L'idée est quand même de se dire, tiens, c'est pour la Belgique, c'est dans un cadre belge qu'on réfléchit, mais s'il y a des enjeux qui doivent être gérés au niveau européen, voire au-delà, bah, je trouve que c'est peut-être important de les pointer. Si vous avez 6 points, vous avez 6 points. Est-ce que ça vous paraît clair? Et donc, si ça ne vous embête pas, je vais alors installer un micro là, qui va prendre de manière un peu large, c'est pas la même chose que si c'était vraiment une interview. Ça va?
Eh bien... A tout de suite, ça va l'air.
Il y a un thé, hein, n'oublie pas.
Oui. Allez, vous savez aussi, tiens là. Voilà. Un petit pain au chocolat. Tout ce qu'on mange pendant maintenant.
Exactement. Il faudrait pas manger.
Bon, notre fiscalité. On va faire des feuilles blanches, je t'ai dit.
Donc il va très très bien, moi je ne comprends pas.
Oui.
J'ai dit oui parce que je voulais vous voir, mais je ne l'ai pas dit. Je ne comprends pas, vous tellement compris. Nous sommes dans un système limpide, clair, très simple à comprendre.
Ouais. Le monde entier nous a envie et s'empresse de nous copier.
Cohérent. Ouais, ça c'est vraiment... D'où le fait qu'il soit lisible.
Ouais.
Comme il est cohérent.
Mais moi j'aime bien insister, le fait que le monde entier nous l'envie.
Oui, c'est clair.
Non mais parfois nous sommes un paradis fiscal, parfois pour des étrangers.
Ça c'est clair. Les intérêts notionnels... What the fuck is that? Ah mais bon,
le ton est donné. L'ambiance est détendue, quelques bics et bloc-notes sur la table, un tableau et des marqueurs si besoin, le travail est lancé, avec un peu plus de 2 heures pour aboutir à quelques pistes de solutions concrètes, de révision en profondeur de notre système.
Pour lancer, donc la première chose qui me semble dramatique, on dit parfois que l'impôt est un marqueur de civilisation, que l'impôt est... Les civilisations se sont développées l'un avec l'autre.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est plus un marqueur de société. C'est devenu un obstacle, c'est devenu un coût, c'est devenu quelque chose qui empêche les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire.
La fiscalité des revenus immobiliers, il n'y a personne qui la comprend. Et la première qui ne la comprend pas, c'est l'administration fiscale. Hein. Quand il faut aller expliquer à l'administration fiscale qu'un code ISIN, ce n'est pas un code IBAN, et que donc mon client n'a pas autant de comptes que ce qu'il pense qu'il a, mais c'est juste... Les titres qui sont sur son compte.
Nos 3 experts ne partent pas de zéro. Outre leur expérience, je leur ai demandé de venir chacun avec un état des lieux en 3 points des principaux problèmes, des grands mots de la fiscalité belge. Comme en télé-réalité, il faut donc passer au confessionnal et c'est Philippe Defeyt qui s'y colle le premier. Il pointe à mon micro 3 problèmes importants de notre système fiscal.
Alors le premier, c'est un problème, je dirais, politique dans le sens noble du terme. Il n'y a plus d'adhésion à un système fiscal et même d'une manière générale de plus en plus à la redistribution des revenus. La fiscalité n'est pas intégrée dans une vision de société, n'est pas intégrée dans une vision politique. Après, on peut décider évidemment de la manière dont on traduit une vision, mais au moins il faut une vision et elle n'existe plus, il n'y a plus d'adhésion. La fiscalité et d'une manière générale les prélèvements obligatoires sont vus comme un coût, comme un obstacle. Comme quelque chose qui empêche de faire ce qu'on a envie, comme une pénalité, comme une punition par rapport à ceux qui réussissent. Et on ne peut pas construire un système fiscal de qualité s'il n'y a pas une forme d'adhésion. Deuxième problème, c'est l'absence d'articulation, ou en tout cas une absence de cohérence entre la fiscalité et les autres aspects de la redistribution des revenus. J'en vise 2 aujourd'hui, la sécurité sociale évidemment, et tout ce qu'on a pris comme mesure pour aider les gens pendant la crise Covid et pendant la crise énergétique. Pour insister un instant sur la sécurité sociale, c'est par exemple comment est-ce qu'on articule allocations familiales et les réductions fiscales pour enfants en charge. Il y a comme ça plein de questions. Qui prend en charge les personnes à charge? Est-ce que c'est la sécurité sociale ou est-ce que c'est la fiscalité? Pour moi, c'est un problème majeur d'équité, de ramener, de redéfinir les rôles de la sécurité sociale et de la fiscalité. Et puis la troisième chose, c'est un constat, je pense, qui est partagé par beaucoup aujourd'hui, mais qui ne fait pas avancer les choses pour autant. On a construit un système complexe, pas neutre sur beaucoup de choix, incohérent et qui devait donc illisible, qui entretient un contentieux. Enfin, je pense qu'il faut quelque chose de plus lisible, de plus cohérent, et ça, c'est probablement la chose la plus compliquée.
Le point 1 et le point 3 semblent clairs. Il faut, pour Philippe Defeyt, retrouver une vision politique, savoir à quoi sert l'impôt, quels sont les buts poursuivis, et avoir un système beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible et cohérent. 2 objectifs qui, forcément, sont liés. le point 2, cité par Philippe de Fayt, je me permets de m'y arrêter quand même quelques secondes. Parce qu'il est un peu plus compliqué à saisir, il parle donc d'incohérence entre la fiscalité et d'autres aspects de la redistribution dans notre État. Alors je prends un exemple qui concerne les enfants. Aujourd'hui, dans le nouveau régime d'allocation familiale qui est géré par les régions, un enfant égale un enfant. Ça veut dire que vous en ayez un, deux ou cinq, vous recevez dans ce nouveau système le même montant par enfant. Par contre, en matière d'impôt sur le revenu, l'avantage fiscal pour un enfant à charge devient de plus en plus important à chaque enfant de plus dans la fratrie. Ce qui veut dire que l'avantage proportionnel par enfant à charge sera bien plus important si vous en avez trois que si vous n'en avez qu'un seul. C'est, pour Philippe de Fayt, une des nombreuses incohérences entre notre régime fiscal et d'autres politiques menées par ailleurs par l'État fédéral, les régions ou les communautés. C'est au tour de Sabrina Scarna maintenant de pointer les trois grands mots de notre fiscalité et elle commence, comme Philippe de Fayt, sur l'enjeu de la vision.
On n'a pas de sens. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de sens. Vous écoutez les problèmes de démission, on vous parlera de jeunes qui cherchent du sens, mais en fait, tout le monde cherche du sens. Et la fiscalité devrait en avoir un. Je ne dis pas quels sont les choix politiques qui doivent être faits, mais on devrait avoir des choix politiques. Et je pense quand même que la santé, l'enseignement et la justice sont quand même des piliers d'un état de droit et d'une démocratie. On devrait avoir des objectifs sociétaux et on devrait faire en sorte que la fiscalité aille vers ces objectifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La fiscalité n'est que budgétaire ou dogmatique. Aujourd'hui, on va faire un impôt qui ne sert à rien, mais on va pouvoir dire, moi, j'ai taxé, je prends la plus-value de spéculation de 2016, j'ai taxé les riches. On a créé un impôt qui devait rapporter 28 millions d'euros. C'est une plaisanterie quand on est sur un budget de 50 milliards. Donc, on n'a que du dogme et l'absence de cohésion. Donc, pour moi, ça, c'est le premier grand mot, qu'on aille vers du sens. Deuxième problème, c'est que on est dans une prolifération juridique qui n'a plus non plus aucun sens. On prend des mesures qui sont hyper de contrôle. On n'est que dans le contrôle, on est dans des mesures de procédure. On vient vous expliquer qu'on va allonger les délais pour permettre à l'administration de traiter des dossiers complexes, mais ils ne sont pas complexes. C'est la loi qui est complexe, qu'on arrête d'avoir des lois compliquées, et elles seront faciles à appliquer. Faciles à appliquer, donc faciles à contrôler. On est en train de faire exactement l'inverse. Et ça, on le voit tant au niveau belge qu'au niveau européen. Troisième mot, c'est la régionalisation. Je trouve qu'en Belgique, le fait qu'on soit un État fédéral crée énormément de complexité au niveau de comment penser. On a trop de niveaux de pouvoir, donc tout le monde doit collecter de l'impôt. Ça veut dire que si on veut parler, par exemple, d'un exemple très simple, la fiscalité immobilière, tout le monde a son mot à dire sur la fiscalité immobilière puisqu'elle rapporte à tout le monde. Et du coup, c'est très difficile de faire une page blanche puisqu'il faudrait faire une page blanche en mettant tout le monde autour de la table. Alors quand vous voyez déjà qu'à un seul niveau, le fédéral, c'est compliqué, mais imaginez que vous rajoutez l'ensemble des pouvoirs en Belgique et on a encore créé un problème. Et dernière petite chose pour moi qui est vraiment aujourd'hui le clou du cercueil, c'est la justice. La fiscalité est devenue excessivement contentieuse, on n'a que des litiges, on a des dogmes qui se mettent tant au niveau législatif mais aussi dans les faits. On a des gens qui sont totalement individualistes parce qu'il n'y a pas de sens. Donc pourquoi aller vers quelque chose qui est plutôt contributif puisque de toute façon à la fin de la journée ça n'a pas de sens et donc autant que je tire la couverture à moi. De l'autre côté on a l'administration fiscale qui se dit ces gens ne participent pas, je veux aussi avoir des dogmes. Et donc on crée un conflit et on n'a pas de juge pour trancher nos conflits. Donc ça, c'est la preuve que la fiscalité a tout raté, puisque je n'ai pas les moyens, mon État n'a pas les moyens de payer un magistrat qui pourra trancher rapidement et enfin permettre aux partis d'avancer. Et ça, pour moi, c'est le clou du cercueil aujourd'hui.
Une fiscalité qui n'a pas ou plus de sens, qui a tout raté, dit même Sabrina Scarna, avec là encore des éléments qui s'emboîtent. Un manque de sens qui explique en partie l'absence d'une ligne claire et donc un enchevêtrement de règles, de niches qui coexistent, se superposent et sont très difficiles à comprendre et à lire et du coup un contentieux fiscal qui s'accumule, ce qui rend très compliqué de rendre la justice en temps et en heure et tout cela forcément empêche d'adhérer au système.
autour enfin d'Étienne de Calataille, qui lui, plutôt que de dire ce que notre fiscalité ne fait pas, préfère se demander ce qu'elle devrait faire. Et il interroge notre système au regard des objectifs qu'il devrait justement avoir.
Je regarderai la fiscalité en regard de trois critères qui me semblent déterminants pour les années qui viennent, à savoir l'environnement, la santé publique et la cohésion sociale. Et donc je me dirais qu'en moi, la fiscalité peut-elle contribuer mieux ou moins mal à ces différentes dimensions. La première, sur l'environnement, le principe auquel on pense spontanément, c'est une fiscalité qui soit à la hauteur de la pollution, à la hauteur de ce que nous appelons les externalités en matière de comportement. Je me comporte de telle sorte que je génère de la pollution, des embouteillages, des gênes pour autrui, ben je suis taxé. Alors bien sûr, ça pose des problèmes éthiques. L'argent ne peut pas tout permettre. On ne peut pas simplement dire ben « je paye mes impôts et donc je peux polluer autant que je veux ». Mais dans certaines formes de pollution, il faut interdire. D'autres formes de pollution doivent donner lieu à cette responsabilisation. Premier axe. Deuxième axe, moins directement lié à la fiscalité, mais que je pense être une préoccupation fondamentale, et malgré la Covid, on n'en parle pas encore assez, c'est la santé publique. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite ? On ne souhaite pas mourir d'abord et avant tout riche, on souhaite a priori mourir vieux et en bonne santé. Et donc, il faut voir en quoi la fiscalité peut marginalement contribuer à la santé. Bon, l'exemple le plus évident, ce sont les accises sur le tabac, mais quand viendront enfin les accises sur les sodas ou ce genre de considérations-là. Deuxième dimension. Troisième dimension, la cohésion sociale. La cohésion sociale, elle va en fait exiger que l'impôt soit juste et efficace. Les gens accepteront l'impôt s'ils ont l'impression que ceux qui doivent payer plus payent plus et s'ils ont l'impression que l'argent utilisé est bien utilisé. Donc, double exigence. Malheureusement, aujourd'hui, mais c'est le volet plutôt dépenses publiques, l'efficacité ne semble pas être au rendez-vous chez nous. Et donc, ça va légitimer des comportements d'évasion, pour ne pas pudiquement parler d'optimisation. Et on va, par ailleurs, avoir des considérations d'équité. Pour ce qui est de l'équité, les économistes aiment bien résumer ça sous deux axes, qu'on appelle l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité horizontale, c'est que deux personnes qui ont la même capacité contributive payent la même chose. L'équité verticale, ceux qui ont les épaules plus larges, payent plus. Là où le bas blesse particulièrement chez nous en Belgique, c'est sur le plan de l'équité horizontale. Vous pouvez avoir des capacités contributives identiques et payer des sommes très différentes. Par ailleurs, il y a aussi un autre manquement à l'efficacité, pardon, à l'équité et aussi à l'efficacité d'ailleurs, c'est la complexité de notre système, puisqu'il y a ceux qui ont accès à l'information qui leur permettent d'optimiser et ceux qui ne l'ont pas. Consacrer des ressources à optimiser, c'est un gaspillage d'intelligence humaine et de temps, et surtout, c'est contraire à ce sentiment d'équité que l'on se doit d'avoir.
Eh bien, fameux costard taillé à notre système fiscal. Si je résume l'analyse en cinq problèmes clés, nous avons donc, selon nos trois experts, d'abord un problème de sens. Difficile de répondre précisément à la question de savoir à quoi sert l'impôt, quel est le projet de société auquel sert notre fiscalité. Nous avons deuxièmement un problème de lisibilité. Un millefeuille de législation, une tuyauterie complexe, des niches à gogo, le contribuable s'y retrouve très difficilement, les contentieux s'accumulent et nombre de citoyens doivent se faire aider par des bureaux de conseil spécialisés, ce à quoi tout le monde n'a pas accès. Troisièmement, nous avons un problème d'équité. Pour la raison que je viens d'évoquer, juste là, mais aussi parce qu'il arrive très souvent que deux personnes ayant les mêmes revenus ou le même patrimoine payent des montants d'impôts très différents. Un problème de cohérence également. La politique fiscale est parfois incohérente, voire contradictoire avec d'autres politiques menées, notamment en sécurité sociale. Et puis enfin, cinquièmement, un problème qui découle de tous les autres, celui de la légitimité. Si le sens de l'impôt n'est pas compris, s'il est vu comme inéquitable, illisible et incohérent, difficile forcément de trouver légitime de le payer. Voilà pour les constats bien salés. Et le temps que je vous résume tout ça, les échanges entre nos trois experts sont déjà entrés dans le vif du sujet.
Et semble-t-il, enfin je veux dire, un premier truc où on semble être d'accord, c'est la complexité. Alors comment répondre à la complexité ? Moi je trouve que l'idée de base de Van Peteghem, dire on supprime toutes des niches, enfin pardon, à lesquelles, mais un maximum de niches, et on réinjecte cet argent dans un abaissement du tarif. Donc dans la proposition qu'il a faite, je trouvais qu'elle n'était pas assez sociale.
Ben non.
Les discussions entre les trois spécialistes portent d'abord sur la complexité, mais glissent rapidement sur les projets de réforme portés par le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, notamment sur les barèmes fiscaux.
Je trouve que voilà, aujourd'hui, ce qui est le plus choquant quand on regarde la grille, enfin le barème, c'est que le gars qui gagne 20 000 euros et qui gagne 1 euro en plus, cet euro en plus est taxé à 40% plus les additionnels. Hein. Et ça, c'est hallucinant d'être élevé.
L'idée de Van Petegem était dans l'absolu, moi je la trouvais bonne. C'était de dire je crée un système beaucoup plus simple. Ouais. Mais là où il pêchait, c'est qu'il ne m'a pas tout touché à la progressivité.
Nous voilà déjà au cœur de l'un des grands enjeux de la fiscalité belge. Les fameux barèmes fiscaux et notre progressivité souvent jugée assez vertigineuse. Je vais donner quelques chiffres parce que c'est un enjeu important. Tout d'abord, chaque contribuable belge a droit à ce que l'on appelle une quotité exemptée d'impôt, c'est-à-dire une part de revenus immunisée d'impôt. Elle s'élève sur un an à 9 270 euros pour l'année 2022. Puis, l'impôt s'applique en fonction des tranches de revenus. Pour, en gros, les 13 000 premiers euros que vous gagnez, le taux d'impôt appliqué est de 25%. Ensuite, sur la tranche qui va de 13 000 à 24 000 euros de revenus, vous passez déjà à 40% d'impôt, donc de 25 à 40%. Puis vous passez à 45% sur la tranche entre 24 000 et 42 000 euros, et à partir de 42 000, eh bien vous êtes au taux maximum de 50%. Ce qui veut dire que pour la part de vos revenus issus du travail supérieur à 42 000 euros, la moitié part en impôts que vous gagnez annuellement 50 000 ou 500 000 euros, ce qui fait dire à beaucoup que la pente de progressivité est beaucoup trop raide au début, et dans leur conclusion, nos trois experts semblent assez d'accord sur cet enjeu.
On est taxé de trop vite. Donc c'est pas l'idée que la contribution doit augmenter avec le revenu, ça... Je ne pense pas qu'on modifiera fondamentalement cette logique, mais ça démarre trop vite avec des petits revenus.
Pour Sabrina Skerna, il y aurait lieu d'avoir des tranches d'imposition plus larges et un taux qui monte plus progressivement.